Je dis à M. Carter que je ne pourrais jamais arriver à croire à une telle action. Peut-être bien que non, monsieur, mais cela peut être vrai comme l'évangile, après tout. Il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer la conduite de la jeune femme. Si M. Dunbar était innocent et était arrivé à convaincre la jeune femme de son innocence, elle serait arrivée à vous avec sa franchise et sa rondeur ordinaire pour vous dire « Mon ami, je me suis trompé sur M. Dunbar et j'en suis très désolé. Mais il vous faudra chercher ailleurs le meurtrier de mon pauvre père. » Mais que fait la jeune femme? Elle va se blottir le long du mur d'un corridor. Elle tremble et frissonne et dit « Je suis une misérable, ne m'approchez pas, ne me touchez pas. » C'est bien d'une femme de se laisser corrompre et ensuite de s'en montrer affligée. Je ne répondis rien à cela. C'était pour moi une chose odieuse et inexprimable que d'entendre parler de ma pauvre Margaret comme d'une jeune femme par mon rude compagnon. Mais il n'y avait pas moyen de garder voilés les secrets sacrés de mon cœur. J'avais besoin de l'appui de M. Carter. Pour le moment, Margaret était perdue pour moi, et mon unique espoir de pénétrer les causes cachées de sa conduite reposait sur l'aptitude de M. Carter à résoudre la sombre énigme de la mort de Joseph Wilmot. « Ah, par parenthèse, dit l'agent, il y avait une lettre, n'est-ce pas ?» Il étendait la main pendant que je cherchais la lettre dans mon portefeuille. Comme cette main me parut avide et inquisitoriale alors, et combien je haïssais l'agent de police à ce même moment. Je lui donnai la lettre, et je ne gémis pas tout haut lorsque je la lui tendis. Il la lut lentement, une fois, deux fois, trois fois, cinq, six fois, je crois, en tout, mettant les doigts de sa main gauche dans ses cheveux pendant qu'il lisait, et fronçant le sourcil à la vue du papier qu'il avait devant lui. Ce fut pendant qu'il lisait cette lettre pour la dernière fois que j'aperçus un subit rayon de lumière dans ses perçants yeux gris, et une espèce de sourire se jouait autour de ses lèvres minces. « Eh bien, lui dis-je d'un ton interrogateur au moment où il me rendait la lettre. « Eh bien, monsieur, la jeune dame, monsieur Carter cette fois appelait Margaret la jeune dame. » Et je ne pus m'empêcher de penser que sa lettre l'avait révélée aux yeux de cet homme comme un être différent de la classe ordinaire des femmes appelées vulgairement « jeunes femmes ». La jeune dame était sincère quand elle écrivait cette lettre, monsieur, me dit-il. Elle n'a pas été écrite sous la dictée de quelqu'un et elle n'a pas été payée pour l'écrire. Il y a du cœur là-dedans, monsieur, si je puis me permettre cette expression. Il y a du cœur de femme dans cette lettre. Et quand une femme a donné libre carrière à son cœur, sa cervelle se ratatine comme de l'amadou. Je mets cette lettre avec le discours tenu dans le corridor du grand cerf, monsieur Austin. Et des deux, je pense véritablement pouvoir faire le plus bizarre quatre qui fut jamais additionné par un agent de première classe. Un faible éclat qui ressemblait à un rayonnement de plaisir éclaira toute la face blême de M. Carter pendant qu'il parlait. Et il se leva et marcha tout autour de la chambre, non lentement et pensivement, mais d'un pas vif et déterminé qui était nouveau pour moi. Je pus voir que son entrain s'était accru de plusieurs degrés depuis la lecture de la lettre. « Vous avez trouvé une piste, lui dis-je. Vous voyez votre chemin ?» Il se retourna vivement et mit fin à mon extrême curiosité d'un geste de la main. « Ne vous pressez pas tant, monsieur, dit-il gravement. Quand vous perdez votre chemin par une nuit noire dans un pays marécageux et que vous apercevez une lumière devant vous, ne commencez pas par frapper des mains et par crier « Viva !» avant de savoir quel genre de lumière ce peut être. Cela peut être un feu follet ou une lampe. « Vous me laissez le soin de cette affaire, monsieur Austin. Ne vous pressez donc pas de tirer des conclusions. Je tâcherai d'en sortir tranquillement, et quand ce sera fait, je vous dirai ce que j'en pense. Et maintenant, si nous allions faire un tour dans la cour de la cathédrale, et si nous allions visiter l'endroit où le corps a été trouvé ?» « Comment trouverons-nous l'endroit même ?» lui demandai-je en mettant mon chapeau et mon pardessus. « Le premier passant nous l'indiquera, » répondit M. Carter. « Il n'y a pas tous les jours un crime célèbre dans les environs de Winchester. Et quand les habitants en ont un, ils savent en apprécier les avantages. Vous pouvez être certain que l'endroit est très connu. » Il était alors environ 5 heures. Nous descendîmes l'escalier glissant en bois de chêne et sortîmes dans la paisible rue. Un vent froid et âpre soufflait des montagnes, et les nids des grolles perchés dans les plus hautes branches des vieux arbres étaient remués comme le berceau légendaire au sommet de l'arbre. Je n'avais jamais été à Winchester, et je fus charmé des vieilles et originales maisons, de la grande cathédrale, des prairies étendues, des ruisseaux tortueux ridés par le vent. Je me sentis calmé par la placidité particulière de ce tableau, et je ne pus m'empêcher de songer que, si la destinée d'un homme devait être malheureuse, Winchester serait un agréable endroit pour y venir traîner son malheur. Une ville tranquille, oubliée, où l'unique événement des lentes journées se bornait au carillon de l'horloge et au ton des diverses cloches de la cathédrale. Monsieur Carter avait étudié toutes les bribes de preuves relatives au meurtre de Wilmot. Il me montra la porte par laquelle Dunbar était entré dans la cathédrale, le sentier que les deux hommes avaient pris pour aller dans le petit bois. Nous suivîmes ce même sentier et nous rendîmes à l'endroit même où l'homme assassiné avait été trouvé. Un jeune garçon qui pêchait près du petit bois vint à nous et nous montra la place exacte. C'était entre un orme et un hêtre. « Il n'y a pas beaucoup de hêtres dans ce petit bois, » dit le jeune garçon, « et celui-ci est le plus gros. Il est donc assez aisé pour tout le monde de découvrir l'endroit. Il faisait un temps très sec l'année dernière au mois d'août quand le crime a été commis, et l'eau n'était pas à moitié aussi profonde qu'elle l'est aujourd'hui. « A-t-elle une profondeur égale partout ?» demanda M. Carter. « Oh non, » dit le jeune homme, « c'est ce qui rend ces ruisseaux si dangereux pour les baigneurs. » Ils sont assez peu profonds dans de certains endroits, mais il y a toutes sortes de trous, et à moins d'être un très bon nageur, il vaut mieux ne pas s'y fier. Monsieur Carter donna 6 pence au jeune garçon et le renvoya. Nous marchâmes un peu plus loin, puis alors nous retournâmes et revînmes vers la cathédrale. Mon compagnon était très silencieux, et je vis qu'il réfléchissait encore. Le changement qui s'était opéré dans ses manières après la lecture de la lettre de Margaret m'avait inspiré une nouvelle confiance en lui, et j'étais plus à même d'attendre le résultat des événements. Petit à petit, la gravité de la nature du travail dans lequel je m'étais engagé augmenta d'importance dans mon esprit, et je sentis que j'avais quelque chose de plus à faire que de me rendre compte de la conduite de Margaret. J'avais à remplir un devoir envers la société, en prêtant mon concours le plus puissant pour la découverte du meurtre de Wilmot. S'il était permis à l'assassin de ce pauvre homme de vivre, de prospérer et de porter la tête haute comme maître de Maudesley Abbey, et associé principal d'une grande maison de la cité qui, depuis un siècle et demi, porte un nom honorable, une sorte de prime d'encouragement était offerte au crime dans les sphères élevées. Si Dunbar avait été un être mourant de faim qui, dans un moment de folie et de fureur contre les inégalités de l'existence, eût levé son bras décharné pour frapper son frère opulent pour un morceau de pain, tous les agents de la police eussent été comme des chiens à la poursuite de ses pas furtifs, épiant son visage coupable, et ils eussent été attachés à ses trousses jusqu'à ce qu'ils l'eussent amené à son horrible fin. Mais parce que dans le cas présent, l'homme soupçonné avait toutes les vertus suprêmes comprises dans des millions, la justice revêtait son plus épais bandeau, et les agents, si habiles pour traîner un malheureux de basse extraction au gibet, se tenaient à distance et disaient avec respect « Monsieur Dunbar est un homme trop haut placé pour s'être rendu coupable d'un crime diabolique ». Ces pensées remplissaient mon esprit tandis que je me retournais à l'hôtel George avec M. Carter. Il était 6h30 comme nous entrions dans la maison où le dîner nous attendait depuis une demi-heure, au grand regret du plus courtois des garçons qui exprima une inquiétude très grande au sujet du poisson. Comme cet homme papillonnait toujours autour de nous pendant le dîner, je m'attendais à chaque instant à voir M. Carter aborder le seul thème qui fût de quelque intérêt, soit pour lui, soit pour moi. Mais il était trop prudent pour agir ainsi. Il parla de la ville, des dernières assises, de l'état de la campagne, du temps, de la prospérité de la saison où l'on pêchait la truite, de tout excepté de l'assassinat de Wilmot. Ce ne fut seulement qu'après le dîner, quand un spécimen de dessert pétrifié sous la forme de figues, d'amandes, de raisins et de biscuits rassis fut apporté sur la table, que l'affaire sérieuse s'engagea. Les escarmouches préliminaires n'avaient pourtant pas été sans dessein, car le garçon avait été un peu animé et mis en disposition communicative, et il était maintenant tout prêt à nous dire ce qu'il savait. Je déléguai mes pouvoirs d'arrangement à mon compagnon, et c'était chose merveilleuse de voir M. Carter étendu dans son fauteuil, tenant à la main ce qu'il appelait la carte des vins, et délibérant entre un Porto de 1842 léger et élégant et un Porto de 1845 d'un bouquet plus riche et plus foncé de nuances. « Je crois que nous ferons bien d'essayer le numéro 15, » dit-il, en tendant au garçon la liste des vins après mûre réflexion. « Décantez-le soigneusement, dans tous les cas. J'espère que votre cave n'est point trop froide. »« Oh non, monsieur, le patron est très soigneux de sa cave. » Le garçon s'éloigna, persuadé qu'il avait affaire à deux connaisseurs. « Vous avez à écrire ces lettres avant 10 heures, n'est-ce pas, monsieur Austin ?» dit l'agent au moment où le garçon rentrait, portant une carafe sur un plateau d'argent. Je compris l'allusion et mis mon buvard de voyage sur une petite table à côté de la cheminée. Monsieur Carter me présenta un des flambeaux, et je m'assis devant la petite table, j'ouvris mon buvard, et je commençai à écrire quelques lignes à ma mère, pendant que l'agent faisait claquer ses lèvres et délibérait sur son premier verre de Porto. « Qualité de vin très convenable, dit-il, très convenable. Savez-vous où votre maître le prend ? Non, n'est-ce pas ? Ah, il le met en bouteille lui-même, je présume. Je pensais qu'il l'avait eu l'autre jour, à la vente de Warren Court, à l'autre bout du comté. » « Remplissez un verre pour vous, garçon, et posez la carafe près du garde-feu. Ce vin est un peu froid. »« À propos, j'ai entendu l'autre jour dire beaucoup de bien de vos vins par une personne de quelque importance, je puis le dire. »« En vérité, monsieur, » murmura le garçon, qui se tenait à une distance respectueuse de la table, buvant son vin avec lenteur. « Oui, j'ai entendu parler de votre maison par ni plus ni moins que M. Dunbar, le riche banquier. » Le garçon dressa les oreilles. Je mis de côté la lettre commencée pour ma mère et j'attendis avec une feuille de papier vierge devant moi. « Ce fut une histoire bien extraordinaire, par parenthèse, » dit M. Carter. « Versez-vous un autre verre de vin, garçon. Mon ami que vous voyez ne boit pas de Porto. » « Et si vous ne m'aidez pas à finir cette bouteille, j'en boirai beaucoup trop. »« Avez-vous déjà été interrogé dans l'enquête sur l'affaire de Joseph Wilmot ?»« Non, monsieur, » répondit le garçon avec vivacité. « Je n'ai pas été interrogé, monsieur, et l'on dit que nous aurions dû être tous interrogés, car, vous savez, il y a des faits insignifiants qu'une personne aurait pu remarquer et l'autre pas. » Et ce n'est pas la place d'un homme de se mettre en avant avec des petits détails ordinaires, vous savez, monsieur. Mais quand les petits détails sont rapprochés les uns des autres, ils peuvent parfois être utiles, vous savez, monsieur. » Comme il n'y avait rien dans cette réponse qui pût amener un résultat, je m'amusais à tailler le bec de ma plume pendant que j'attendais quelque chose plus digne d'être noté. « Quelques-uns de vos gens ont été interrogés, je crois. » « Oh oui, monsieur, » répondit le garçon, « le patron a été interrogé tout d'abord, puis Brigmaul, le premier garçon, donna ses renseignements. Mais, monsieur, sans méchanceté contre Brigmaul, lequel Brigmaul et moi avons été domestiques ensemble il y a bien des années, mais notre premier garçon est si occupé de lui-même, de sa cravate, de ses devants de chemise, de ses boutons de chemise en or, de sa chaîne de gilet... qu'il ferait à peine attention à un tremblement de terre qui engloutirait la moitié du genre humain devant lui. à moins que l'eau et la boue produite par ce tremblement de terre ne gâtassent ses habits. Brigmaul est le premier garçon dans cette maison depuis tantôt 30 ans, et en dehors de sa grande façon de voler à la portière d'un carrosse pour conduire ses voyageurs à leurs appartements, de tisonner le feu, et un certain chic pour amener des gens réservés à commander des vins dispendieux, je ne reconnais pas vraiment une grande valeur à Brigmaul. Mais quant à Brigmaul dans une enquête, il vaut à peu près autant que le grand Turc. Mais pourquoi a-t-on interrogé Brigmaul de préférence à toute autre personne ? Parce qu'on supposait qu'il en savait plus long sur cette affaire qu'aucun de nous, commettant celui qui venait prendre les ordres pour le dîner. Mais moi et Elisa, la seconde femme de chambre, nous étions dans le vestibule quand les deux messieurs y pénétrèrent. Alors, vous les avez vus tous deux ? Oui, monsieur, aussi bien que je vous vois. Et j'ai été abasourdi quand on me raconta après que celui qui avait été assassiné n'était qu'un domestique. Vous n'avez pas l'air d'avancer beaucoup dans votre correspondance, dit Monsieur Carter, en me regardant par-dessus son épaule. Je n'avais encore rien écrit, et je compris que ceci était une invitation à commencer. J'inscrivis la dernière remarque du garçon. Pourquoi avez-vous été si étonné d'apprendre que c'était un domestique ? Demanda Monsieur Carter au garçon. Parce que, vous savez, monsieur, il avait l'air d'un gentleman, répondit cet homme. Ce n'est pas qu'il portât la tête plus haut que M. Dunbar, ou qu'il fût mieux mis, car les vêtements de M. Dunbar paraissaient des plus neufs et des meilleurs. Mais il avait une espèce d'air nonchalant et languissant qui est particulier aux personnes de la plus grande aristocratie. Quelle sorte d'homme était-ce ? Il était plus pâle que M. Dunbar, plus maigre et plus blond. Je pris note des remarques du garçon. Mais je ne pus m'empêcher de penser que tout son verbiage sur les manières et l'air de l'homme assassiné était on ne peut plus inutile. Plus pâle et plus maigre que M. Dunbar, répéta l'agent. Plus pâle et plus maigre, n'est-ce pas ? C'est une chose que vous aviez remarquée. Mais dites-moi maintenant ce que vous auriez pu dire à l'enquête si vous aviez été appelé comme témoin. « Eh bien, monsieur, je vais vous le dire, c'est bien peu de choses, et j'ai raconté le fait bien des fois à Brigmaul et aux autres. Mais ils disent que je me suis trompé, ainsi qu'Elisa, qui est une friponne rieuse et folle, qui ne peut jamais supporter ce que je dis. Mais je déclare très solennellement que je dis la vérité et ne me suis point abusé. Quand les deux messieurs, car ils avaient tous deux l'air de messieurs, quand les deux messieurs entrèrent dans le vestibule... Celui qui a été tué avait un habit boutonné et serré sur sa poitrine, à l'exception d'un seul bouton. Et par l'espace laissé ouvert par cet unique bouton, j'aperçus une chaîne en or qui brillait. Eh bien, et ensuite ? L'autre monsieur, M. Dunbar, avait sa redingote ouverte en descendant de voiture. Et je vis, aussi bien que j'ai pu voir jamais quelque chose, qu'il n'avait pas de chaîne en or. Mais 2 minutes après qu'il fut entré dans le vestibule, pendant qu'il commandait son dîner, il prit son habit et le boutonna. Eh bien, monsieur, quand il revint, après avoir été voir la cathédrale, son habit était à moitié ouvert, et je vis qu'il portait une chaîne en or. Et à moins que je n'aie été absolument abusé, c'était la même chaîne que j'avais vue sur le gilet de l'homme assassiné. J'aurais presque juré que cette chaîne était la même à cause de la couleur de l'or qui était d'un jaune particulier et plus foncé. Ce ne fut que plus tard que ces choses se présentèrent à mon esprit, et je les trouvai véritablement très extraordinaires. Et se produisit-il encore autre chose ? Rien du tout, si ce n'est qu'un soir à souper, quelques semaines après l'enquête, Brigmaul laissa échapper la remarque qu'il avait faite, que M. Dunbar avait ouvert son nécessaire pendant qu'il attendait que Wilmot revînt pour dîner, et que pendant un temps infini, il n'avait pu trouver la clé de ce nécessaire. « Il était troublé, sans doute, et sa main tremblait, n'est-ce pas ? » demanda l'agent. « Non, monsieur, d'après ce que dit Brigmaul, M. Dunbar avait l'air aussi froid et aussi calme que s'il eût été de fer. Mais il resta d'abord longtemps à essayer une clé, puis une autre. » Et bien longtemps encore avant d'avoir trouvé la bonne. En vérité, c'était bien étrange. « Mais j'espère que vous ne penserez pas mal de ce que j'ai laissé échapper, monsieur, » dit le garçon vivement. « Pour sûr, je ne voudrais pas dire quelque chose d'irrévérencieux sur monsieur Dunbar, mais vous m'avez demandé ce que j'avais vu, monsieur, et je vous ai dit naïvement, et... « Mon cher ami, vous êtes parfaitement en sûreté en me parlant, » répondit l'agent avec cordialité. « Mais apportez-moi un peu de thé très fort et desservez ce dessert. Et si vous avez quelque chose de plus à nous raconter, vous pourrez nous dire cela en versant le thé. Il y a tant de choses qui se rattachent à ce genre de faits et qui ne sont pas reproduites dans les journaux, qu'il est vraiment très intéressant de les entendre de la bouche d'un témoin oculaire. » Le garçon s'en alla, satisfait et rassuré, après avoir débarrassé très lentement la table. J'étais très impatient d'entendre ce que M. Carter avait recueilli de la conversation de cet homme. « Eh bien, lui dis-je dès que nous fûmes seuls. » L'agent respira longuement. « Eh bien, dit-il, à moins de me tromper grossièrement, je crois que je tiens mon ami le maître de Modestly Abbey. » « En vérité, mais comment ? » lui demandai-je. « Cette histoire sur la chaîne d'or qui aurait changé de main doit être complètement absurde. » Quel besoin Henry Dunbar avait-il de la montre et de la chaîne de Joseph Wilmot ?« Ah, là, vous avez raison !» répondit M. Carter. « En quoi Henry Dunbar pouvait-il désirer la chaîne d'or de Joseph Wilmot ?»« C'est une question. Pourquoi la fille de Joseph Wilmot serait-elle si soucieuse de cacher Henry Dunbar, maintenant qu'elle l'a vu pour la première fois depuis le meurtre ?»« C'est là une autre question que je vous pose. » Trouvez-y une réponse, si vous pouvez. » Je dis à l'agent qu'il semblait disposé à me mystifier et que certainement il réussirait au-delà de ses vœux. M. Carter fit entendre un petit éclat de rire victorieux. « N'y prenez pas garde, monsieur, » dit-il. « Vous m'avez laissé toute responsabilité. J'en sortirai très nettement, à moins que je ne fasse tout à fait fausse route. » « Attendez la fin, monsieur Austin, et attendez patiemment. Savez-vous ce que je ferai demain ?»«
Je n'en ai pas la moindre idée.
Je ne veux pas perdre plus de temps à questionner les uns et les autres. Je ferai draguer la rivière près du lieu du meurtre, et je tenterai de retrouver les vêtements qui ont été enlevés à l'homme qui a été assassiné au mois d'août dernier. » Le reste de la soirée se passa assez tranquillement. M. Carter but son thé et me demanda la permission d'aller fumer un ou deux cigares dans la grande rue. Il partit et j'achevai ma lettre à ma mère. C'était jour de pleine lune, mais ses rayons étaient fréquemment obscurcis par les nuages noirs que chassait le vent. Je sortis pour jeter ma lettre à la poste, et ce fut avec plaisir que je laissai le vent frais écarter mes cheveux de mon front, car les émotions de la journée m'avaient donné un mal de tête affreux. Je mis ma lettre à la boîte dans une petite rue voisine de l'hôtel. En quittant la poste pour retourner dans la grande rue, je tressaillis à l'apparition d'une figure de jeune fille du côté de la rue opposée à celui où je me trouvais. D'une figure de jeune fille si semblable à Margaret que sa présence dans cette rue me remplit d'un sentiment de terreur vague, comme si cet enfant, avec ses vêtements flottant au vent, avait été un fantôme. Comme de juste, j'attribuais ce sentiment à sa cause réelle, qui n'était rien d'autre que l'état de surexcitation de mon cerveau. Cependant, je me déterminai à éclaircir l'affaire, et dans ce dessein, je traversai la rue et je rejoignis la jeune personne, dont le visage était complètement caché par un voile épais. « Mademoiselle Wilmot, Margaret !» lui dis-je. Il me semblait impossible que Margaret fût à Winchester, et j'avais sans doute raison de faire cette supposition, car la jeune personne se détourna brusquement de moi et passa de l'autre côté, comme si elle avait pris l'erreur que j'avais commise comme une insulte préméditée. Je la suivis du regard, rapide dans la rue étroite, jusqu'à ce qu'elle eût brusquement tourné le coin et disparu. Lorsque je l'aperçus pour la première fois, alors que je me trouvais près du bureau de poste, les rayons de la lune l'avaient complètement éclairée. Au moment où elle s'éloigna, la lune était voilée par un nuage opaque et la rue était pleine d'ombre. Je ne pus donc la voir qu'un instant distinctement. Quant à son visage, je ne pus l'apercevoir.
Je retournai à l'hôtel et, m'étant assis près du feu, j'essayai de lire un journal. Mais il me fut impossible d'enchaîner mes pensées à cette lecture. M. Carter rentra un peu avant 11 heures. Il était très gai et but un grand verre de grog avec une complète satisfaction. Mais de quelque manière que je le questionnasse, je ne pus rien tirer de lui, sinon qu'il voulait rechercher les vêtements du défunt. Je lui demandai ce qu'il voulait en faire et quel avantage il en tirerait s'il les trouvait. Mais il se borna à hocher la tête d'un air capable et me dit d'attendre. Aujourd'hui a été une malheureuse journée et une journée de découverte horrible. Et cependant j'y ai trouvé quelque consolation, car ce que j'ai appris a justifié ma foi dans la femme que j'aime. La matinée était froide et humide. Pas un rayon de soleil dans le ciel gris, et le plat paysage au-delà de la cathédrale semblait presque effacé sous la pluie battante. Seules les collines majestueuses et immuables perçaient les brouillards et figuraient les limites d'un pays submergé. Nous déjeunâmes à la hâte et de bonne heure, si tranquilles et réfléchis que fussent d'ordinaire les allures de l'agent de police. Je vis cependant qu'il était ému. Il ne prit rien qu'une tasse de thé et quelques bouchées de pain rôti, puis il saisit son chapeau et son pardessus. « Je vais, me dit-il, au quartier général de la police du comté. Il me faudra révéler le but qui m'a amené ici, car j'ai besoin de ne rencontrer aucun obstacle dans ce que je vais faire. Si vous voulez voir fouiller l'eau, venez à midi dans le petit bois. Vous m'y trouverez dirigeant les travaux. » Il était à peu près 8h30 quand M. Carter me quitta. Jusqu'à 11 heures, le temps me pesa beaucoup. À 11 heures, je pris mon chapeau et mon pardessus et je sortis par la pluie battante. Je trouvai mon ami l'agent de police debout sous l'une des portes de la cathédrale, en conversation très animée avec un vieillard. Comme M. Carter ne me fit aucun signe, je compris qu'il ne désirait pas que j'interrompisse le discours de son interlocuteur. Aussi continuai-je à suivre lentement le même sentier que nous avions parcouru la veille au soir, le sentier par lequel la victime était allée à la mort. Je n'avais pas parcouru l'espace d'un demi-mile que l'agent de police me rejoignait. « Je vous ai écarté il n'y a qu'un instant, me dit-il, parce que je pensais que si vous me parliez, le vieux cesserait de me causer et que je perdrais ainsi quelque chose qu'il avait sur le bout de la langue. Vous a-t-il dit beaucoup de choses ? Non, c'est l'homme qui a apporté son témoignage dans l'instruction. Il m'a donné une description détaillée de la chaîne et de la montre que portait Dunbar. La montre ne s'ouvrait pas comme toutes les montres, et le gentleman ne savait pas s'y prendre très bien pour l'ouvrir, m'a dit mon ami le bedeau. Il paraissait ne pas savoir se servir de la clé de son pupitre. En un mot, ce jour-là, il était atteint d'un accès de gaucherie. Vous pensez qu'il était coupable et que l'idée de l'horrible affaire à laquelle il se trouvait mêlé le troublait et l'agitait.